Bonjour chers auditeurs de Radio Grand Ciel, bienvenue dans notre émission qui sera consacrée aujourd'hui et à l'art et à la foi, car nous allons parler de l'enluminure et du symbolisme. Ou plutôt nous allons écouter notre invité de ce jour, Hector Montigny, qui est calligraphe et enlumineur professionnel, donc qui sera mieux placé que vous, cher monsieur de Montigny, pour nous parler de cet art. Vous êtes chargé de cours à Chartres, à l'École internationale du vitrail du patrimoine, organisée par le Centre international du vitrail. Et à ce titre, vous initiez toute personne intéressée par cet art, à cette technique, à ces différentes techniques.
Oui, donc cette année, nous allons travailler sur un manuscrit très particulier, qui est un psautier doré, donc un livre richement décoré. On est au début du XIIIe siècle. Il a été produit aux alentours d'Oxford. Et ce thème va nous servir pour le travail de toute l'année. Donc on va voir la structure de la lettrine, puisque la lettrine était largement utilisée. On peut déjà différencier trois types de lettrines. Déjà sa fonction, la plus grosse des lettrines, donc il n'y avait pas de standard à cette époque-là. Il fallait en premier lieu feuilleter l'ouvrage qu'on avait en main. On identifiait les plus grosses lettrines. Peut-être que certaines faisaient 4 lignes de hauteur d'écriture, peut-être 5, 10. Ça dépendait du manuscrit. Une fois qu'on avait identifié les plus grosses lettrines, on savait qu'elles marquaient des débuts de chapitre. Ça, c'est un repère visuel. Alors, pour continuer à aider le lecteur, soit j'avais une lettrine simplement décorée, ou j'avais une lettrine qui était habitée, il y avait un personnage qui était à l'intérieur, ou alors elle pouvait être aussi historiée, donc une histoire se passait. Et ces éléments visuels donnaient des indications au lecteur pour savoir dans quelle partie du livre il était. Puisqu'au Moyen-Âge, nous n'avions pas de numéro de page, pas de sommaire, pas d'index. Alors, par exemple, quelqu'un qui cherchait dans un livre d'heures, la première prière de la journée, il fallait trouver l'Annonciation. Il trouvait la scène d'Annonciation, c'était bon. Quelqu'un qui cherchait les psaumes du roi David, alors c'est très facile, il suffisait de trouver un roi. Alors il est très caractéristique, le roi, il porte une couronne. Ça, c'est déjà un bon élément. Pour savoir que c'était le roi David, c'était un roi qui jouait d'un instrument de musique. Quel que soit l'instrument de musique, que ce soit une sorte de harpe ou un carillon, on était, dans ce cas-là, dans les psaumes du roi David. De même, je cherchais, par exemple, le passage sur le prophète Isaïe. Le martyr d'Isaïe, il a été coupé en deux. Si on voit un homme se faire couper en deux, alors je suis dans les pages du prophète. C'était le repère visuel.
Est-ce qu'on arrive aujourd'hui à identifier tous ces personnages, toutes les lettrines historiées, qui sont toujours en rapport avec le texte?
Oui, en général, très souvent, puisqu'il n'y a pas eu qu'un livre d'heures ni qu'un psautier, donc on les retrouve de livre en livre. Alors, de temps en temps, c'est un peu plus difficile, puisque nous avions différentes qualités d'ouvrages aussi. Si un petit bourgeois avait assez d'argent et qu'il voulait un livre d'heures, par exemple, qui a été extrêmement populaire à la fin du Moyen-Âge, en France, entre autres, s'il avait peu d'argent, il ne pouvait pas prendre des grands maîtres. Donc, l'écriture n'était pas forcément très soignée. Ce n'était pas un parchemin de premier choix. On pouvait avoir des trous. Dans ce cas-là, on écrivait autour du trou. Ça se faisait aussi. Et s'il avait des moyens financiers faibles, il ne pouvait pas avoir dans les minures. Donc, les très beaux manuscrits, en général, plus il y avait d'argent, plus ils étaient beaux, puisqu'on prenait les gens les plus compétents qui étaient disponibles.
Est-ce qu'on suppliait par l'utilisation de l'encre rouge à cette absence d'enluminure?
Non, puisque là c'était codifié, le rouge servait réellement à la rubrique. Donc nous avions une encre très souvent noirâtre, voire un peu sépia, mais ça c'est aussi une réaction de l'encre par rapport au parchemin. Donc ça c'était les encres traditionnelles. Alors, de temps en temps, on a bien une ligne ou deux, mais pas dans tous les manuscrits, dans une couleur différente. Mais c'est quand même pas les manuscrits les plus courants.
Le travail alors était sans doute réservé à des livres de choix, comme vous dites, et sans doute aussi au sujet plutôt religieux.
Alors, l'or a servi énormément, puisque pour l'Église, et toujours pareil, il fallait que la personne ait de l'argent. Soit c'était à destination d'un prélat ou d'un prince, et il y avait beaucoup de moyens, il n'y a pas de souci. Mais l'or, au niveau de l'art religieux, c'est un métal qui est stable. Et donc ça, c'était l'un des symboles de la vie éternelle. Pas de commencement, pas de fin. Mais néanmoins, on a utilisé aussi l'or dans d'autres types d'enluminures, dans des romans, par exemple. Je pense à Tristan et Isolde, le roman de Renard, qui est aussi un roman tout à fait étonnant.
Comment est-ce qu'on met en œuvre l'or? On le connaît, la dorure, la feuille d'or.
Oui, donc il nous faut de la feuille d'or. Alors, autrefois, il y avait différents types de métiers, des métiers qui se perdent à l'heure actuelle. Nous avions la personne qui transformait l'or en feuille. Donc, ce métier, c'était un batteur d'or. Il prenait une toute petite quantité d'or, très faible. Il l'a placé entre deux feuilles de parchemin de veau. Et avec une sorte de marteau très spécifique, eh bien, il allait aplatir, jusqu'à faire une feuille. Donc ça, c'était la façon de faire des feuilles d'or.
Et on ne peut pas la toucher avec les doigts.
Alors, c'était mieux de ne pas toucher avec les doigts, parce que c'est vrai qu'on risque de ternir un petit peu l'or. Donc c'est toujours un petit peu dommage. Alors, l'or était appliqué selon deux méthodes, soit une méthode à plat, soit une méthode qui était légèrement bombée. Et dans ce cas-là, il fallait un gesso. Le gesso était un mélange à base de plâtre de Paris, de blanc de plomb, de colle de peau, un peu de miel, et ça donnait eh bien, une base extrêmement dure. Sur cette base qui était lissée, eh bien, on pouvait appliquer la feuille d'or en plusieurs couches, parce que l'or a une faculté, c'est que l'or peut coller à lui-même. Il n'y a pas besoin de colle entre deux couches de feuilles d'or. Lorsque l'or était appliqué, eh bien, on prenait ensuite le croc d'un animal, alors du chien, ou du loup, parce qu'autrefois il y avait des loups. Et avec ce croc, eh bien, on frottait d'une manière très vigoureuse l'or qui avait été appliqué pour le faire briller. Alors, par la suite, on va utiliser d'autres éléments comme l'agate, ça va être monté, et ce type d'outil s'appelle un brunissoir. Alors ça, c'était la première méthode. La deuxième méthode, où avec une même qualité d'or, on pouvait l'appliquer à plat. Le jus d'ail, par exemple. Prenez du jus d'ail, vous le laissez peut-être sécher légèrement pour qu'il s'épaississe un petit peu. Et là, vous pouvez eh bien, l'appliquer, laisser sécher, appliquer la feuille d'or et vous aurez une dorure à plat.
Sur du jus d'ail?
Oui, absolument. Ça peut... Alors, il y avait le jus d'ail, il y avait la sève du figuier, par exemple, qui était utilisée aussi. Alors, la grande différence entre les deux méthodes de dorure, une dorure à plat n'est pas brillante.
Il faut forcément toujours la polir.
On ne peut pas la polir si c'est à plat. Ah oui. Mais si j'ai la méthode sur gesso, alors je peux brunir et l'or sera brillant. Et c'est la même qualité d'or.
Et vous mettez aussi en œuvre des poudres d'or?
Oui, alors comme l'or colle à lui-même, eh bien, il y avait un petit problème technique. Comment réduire l'or en poudre? Alors c'est simple. Si quelques personnes veulent s'essayer, voici la recette. Il suffit de prendre un mortier, des feuilles d'or, mettez les feuilles d'or dans le mortier. Ensuite, rajoutez du gros sel et du miel. Après, avec le pilon, vous allez pouvoir déchiqueter l'or. Ce qui fait que le gros sel sert à déchiqueter. Les petites particules qui vont être créées au fur et à mesure seront enrobées de miel. Le miel ne fera pas dissoudre le gros sel. Et donc, vous allez avoir de l'or en poudre. Donc, le travail est assez long, assez fastidieux, mais ça marche. Une fois que vous avez réduit votre or en poudre, eh bien, rajoutez de l'eau, remuez. Le miel et le sel passent en solution. L'or, comme vous savez, est un métal qui est extrêmement lourd. Il va très rapidement décanter. Vous allez pouvoir, avec précaution, vider l'eau, rincer une deuxième fois, même processus, troisième, quatrième, cinquième fois. Une fois qu'on avait débarrassé l'or du sel et du miel, eh bien, on récupérait la poudre d'or, enfin, sèche. On l'a mélangée à une colle d'acacia, une gomme d'acacia. Donc ça permettait d'avoir une petite préparation qui était versée dans une coquille de moule. On laissait sécher. Lorsque les gens voulaient utiliser l'or à la coquille, un pinceau, comme pour l'aquarelle, un peu d'eau, et puis on pouvait appliquer l'or à la coquille.
Radio Grand Ciel.
les psautiers, les livres d'heures étaient souvent rehaussés de la fabrication d'or. Nous venons d'écouter une belle recette à reproduire pour ceux qui voudraient s'y aventurer. Gervéric de Montigny, vous allez nous parler aujourd'hui également, pas seulement de l'écriture, mais aussi du symbolisme. Parce que dans le passé, chaque image avait un sens, ou plusieurs sens.
Oui, alors c'est tout simplement le fait que lorsqu'on avait des livres enluminés, lorsque nous avions des scènes, très souvent la scène pouvait compléter le texte ou voire le contredire. Alors ça nous a laissé beaucoup de petits éléments très intéressants qu'on redécouvre, on va dire, assez récemment. Dans la symbolique que nous pouvons déjà voir, eh bien l'or, comme je disais, l'or est un métal qui est stable, donc c'est le symbole de la vie éternelle. Mais il n'y a pas que ça au niveau de l'or. L'or aussi, on considérait que c'était un éclat particulier, que c'était la lumière incréée par Dieu. D'où toutes les auréoles, aussi bien dans les manuscrits que par rapport aux icônes. Les icônes, c'est le même problème. Ils utilisent beaucoup d'or. Ensuite, dans les enluminures du Moyen-Âge, eh bien, il suffisait de regarder un petit peu, avec attention, bien les personnages. Est-ce qu'il n'y avait pas des personnages qui étaient dessinés d'une manière beaucoup plus grande que les autres personnages ? Non pas qu'il était géant très souvent, mais simplement parce qu'il avait plus d'importance. Donc on faisait plus gros que les autres. Autre chose à remarquer et amusante, est-ce que c'était le prélat de l'église qui était plus gros que le roi ou le prince ou vice-versa ? Qui était placé au-dessus de qui ? Là aussi, ça permet de voir les luttes d'influence. Et c'est des fois assez cocasse. Un autre élément qu'on pouvait interpréter aussi, c'était très souvent la position des gestes et des personnages. Un personnage, par exemple, qui a son index pointé, l'index qui montre, qui accuse. Si le prélat, par exemple, ou le roi fait le même geste que la personne qui montre, alors il acquiesce, il est d'accord. Toujours au niveau d'un symbolique, si on a un personnage qui a les deux index et il montre deux directions différentes, alors il ment. Il n'y a pas deux vérités à deux endroits différents. Ça, c'était le mensonge. Un personnage, toujours pareil, assis, jambes croisées. Un fourbe. Un personnage accroché à la colonne, ou à la lettre I par exemple. Colonne, symbole de l'église. C'est un bon personnage puisqu'il a accepté la loi de l'église. De même, pour les animaux, nous aurons une symbolique que nous allons retrouver dans les bestiaires. Un animal que nous n'aimons pas trop chez nous, le corbeau. Alors, le corbeau, c'est une longue histoire. Lorsqu'il s'était mis à pleuvoir pendant 40 jours et 40 longues nuits, eh bien, Noé avait voulu voir si l'eau commençait à baisser, si la terre réapparaissait, et il va lâcher un premier oiseau, qui est un corbeau. Le corbeau ne va pas trouver la terre. Le corbeau ne va pas revenir sur l'arche, il va continuer à tournoyer dans le ciel. Alors l'interprétation qui a été faite autrefois était que le corbeau préférait le chaos et le tumulte du monde plutôt que la sécurité de l'église, donc un oiseau qu'on n'aime pas. Deuxième oiseau qui, lui, a reçu tous les éloges, la colombe qui ramène la deuxième fois eh bien, un rameau d'olivier, la colombe qui est blanche, bon, beaucoup de symbolisme même au niveau de la couleur. Ça, ce sont des animaux bien assez connus et facilement identifiables. Un autre animal qui avait une symbolique très forte, qu'on ne connaît pas forcément, mais je pense que ça pourra éclairer d'un nouveau jour nombre des auditeurs lorsqu'ils feront quelques visites ici et là. Un autre animal particulier, eh bien, c'est le lion. Imaginez qu'au Moyen-Âge, l'animal le plus représenté chez nous, ce n'est pas l'ours, ce n'est pas l'aigle, c'est le lion. Alors, bon, nous savons tous que même au Moyen-Âge, les lions ne couraient pas les rues en Europe. Alors pourquoi le lion ? Tout simplement parce qu'il y avait une drôle d'histoire qui courait. On disait que lorsque la lionne mettait bas, ses petits naissaient mort-nés. Alors elle éveillait pendant 3 jours, et au bout du 3e jour, le lion venait, et de par son souffle, elle ramenait à la vie. Donc, le symbole de la résurrection. Et là, on peut reprendre un élément très particulier, le tétramorphe, par exemple, où nous avons les 4 évangélistes avec des formes particulières.
Que nous avons à la cathédrale de Chartres, au portail royal.
Oui, absolument. La plupart des cathédrales, non, en général. Donc, au niveau de ces formes particulières, nous avons Matthieu qui est représenté sous la forme d'un homme, Luc avec le bœuf, Marc le lion et Jean c'est l'aigle. Alors là aussi c'est une allégorie de la vie du Christ, ça s'interprète ainsi. Il est né homme, Matthieu. Le bœuf, animal rituel du sacrifice, le Christ a été sacrifié. Marc est le lion on l'a vu, symbole de la résurrection, et l'aigle, élévation.
Et aussi la voix qui crie dans le désert, aussi. Passage de Jean-Baptiste par lequel Marc va ouvrir son évangile. Et le lion, c'est un animal qui est à symbolique ambivalente, puisqu'il peut représenter le bien, mais également le mal. Alors, quand il sort les griffes et quand il a la bouche fermée, allez voir à la cathédrale de Chartres, au portail sud. Oui. Vous avez le lion avec les griffes sorties, la bouche ouverte sous les pieds de Jésus. L'illustration du psaume 90, ouais. Tu marcheras sur le lion et le dragon. Ouais. Et au portail nord, il devient le symbole du lion de la tribu de Juda.
C'était toujours pareil, comme pour nous, selon le contexte.
Alors que le corbeau, effectivement, il a gardé ce caractère négatif à cause de l'histoire de Noé. Alors, chez les Vikings, Hugin et Munin sont les deux corbeaux qui rapportent toute leur sagesse, les informations du monde à Votan.
Voilà, donc c'est vrai que dans les animaux, il y a des valeurs positives et négatives, et selon les cultures.
Et comme nous sommes dans le Moyen-Âge et dans l'enluminure, nous allons nous en tenir effectivement à cette utilisation que l'Église a faite, ou les hommes d'Église ont fait du bestiaire.
Oui, alors toujours pareil, dans les animaux que l'Église n'aimait pas, l'ours par exemple, l'Église n'aimait pas l'ours. L'ours, il y avait quelque chose de malin, il se tenait sur ses deux pattes postérieures comme un homme. Donc ça, et pourtant l'ours était très valorisé dans les peuplades du nord de l'Europe, puisque même pour les Vikings, s'ils avaient été engendrés par un ours, c'était quand même quelque chose de très important pour eux. Donc l'ours n'est pas réellement aimé. Un autre animal aussi que l'Église va combattre, ça va être bien le sanglier. Le sanglier était un animal qui était chassé, mais le sanglier est un animal qui est courageux, il ne tourne pas le dos et il fonce. Donc il faisait assez de dégâts parmi la noblesse. Donc il va falloir le combattre et trouver un autre animal de substitution, par exemple. Alors toujours dans les éléments symboliques, toujours le bestiaire, puisque le bestiaire est assez fascinant, nous avons eu des animaux qui ont réellement existé et puis d'autres qu'on a imaginés. Alors, dans les animaux imaginaires, nous avons, par exemple, l'incroyable basilic. Incroyable, puisqu'il est né, dit-on, d'un œuf de coq. Et les coqs ne pondent pas tous les jours, tout de même. Cet œuf de coq va être couvé par un crapaud, et ça fera de cet animal le maître des serpents. Donc, il commandait à tous les serpents. Il était redoutable, puisqu'on disait qu'il pouvait tuer un homme rien qu'en le regardant. Il pouvait enflammer les oiseaux aussi en plein ciel. Donc, un animal redoutable.
Radio Grand Ciel, la radio qui rapproche les hommes.
Nous sommes dans la symbolique ou le symbolisme que nous trouvons dans les manuscrits anciens. Vous êtes enlumineur, Éric de Montigny. Vous nous faites découvrir la symbolique des animaux à travers les bestiaires aussi, qui étaient répandus au Moyen-Âge. C'était aussi de fabuleux manuscrits qui reprenaient le thème des caractères bons ou mauvais des animaux. Une question que les auditeurs se sont peut-être posées au cours de cette émission, comment faisaient les copistes quand ils se trompaient? Car aujourd'hui, nous avons la possibilité d'effacer, nous avons l'ordinateur, mais comment est-ce qu'on faisait par le passé avec le parchemin? Vous pouvez le gratter, mais on ne pouvait pas s'apercevoir de toutes les fautes qu'on faisait.
Non. Alors c'est vrai que de nos jours, c'est simple. Nous pouvons effacer ce qui nous gêne et on peut même jeter le papier à la corbeille au cas où. Donc vraiment, c'est très pratique. Autrefois, c'était hors de question. Alors si le copiste avait remarqué qu'il avait fait une faute, parce que bon, les fautes arrivaient pour eux aussi, soit il pouvait gratter, puisqu'il avait toujours son grattoir à la main, et sur le parchemin, on peut réécrire, ça, il n'y a pas de souci. Dans les fautes les plus dommageables, de temps en temps, il y avait une faute assez connue qu'on appelait la faute de mot à mot, ou saut de mot à mot. C'est-à-dire que dans un paragraphe, vous allez avoir deux mots identiques, et ce qui arrivait de temps à autre, eh bien, c'est que le paragraphe entre les deux mots était oublié. Alors, soit on s'en rendait compte, et pour certains, ils s'en sont rendus compte, et ils étaient très ingénieux, donc la partie du texte manquante était mise tout en bas de la feuille. Et puis dans la marge, vous aviez soit une corde avec un index qui montait où devait être cette partie du texte, ou un petit personnage qui tirait une carriole, et ainsi de suite. Donc ça se faisait. Dans les fautes assez incroyables, dans le plus beau des manuscrits de cette première partie du Moyen-Âge, Book of Kells, gardé à Trinity College, eh bien la plus grosse des fautes, ça a été une page qui a été copiée deux fois. Donc il y a deux fois une même page.
Et ils ne se sont pas aperçus de...
Non, ils ne se sont pas aperçus, puisque les copistes travaillaient sous les ordres de l'Armorius, donc le responsable du scriptorium, qui avait les clés, puisque tous
Armorius,
les livres...
Armorius, d'où le mot armoire.
Voilà, puisque tous les livres étaient gardés sous clé, vu l'importance et la valeur...
Même enchaînés dans les universités.
Et enchaînés aussi. Donc, l'Armorius, c'est lui qui donnait eh bien, le travail à faire aux différents scribes. Et donc... Il est possible qu'il ait pu donner une même page à deux scribes.
Mmh. Bon. Et on n'arrachait pas les pages, non? Parce que c'était les parchemins
alors,
pliés.
On l'a remarqué que par la suite, oui, le parchemin était plié, mais bon, ce n'était pas très gênant. Au cas, on aurait pu, sur un feuillet, bah, le couper en deux. Ça, ce n'était pas vraiment un gros problème. Alors, le problème des parchemins ou des façons de faire aussi, puisque nous allons avoir déjà des lois qui vont limiter certaines choses, il existait à un moment donné eh bien, des pages qui étaient vendues seules, enluminées. Et donc, la personne qui faisait faire un livre, eh bien, ma foi, s'il y avait déjà une page enluminée qui existait, c'était bien pratique de l'insérer dans l'ouvrage. Alors, dans nombre de cités du nord de l'Europe, eh bien, il y aura des lois pour interdire ce genre de pratique, où on exigeait que les enluminures qui devaient être utilisées devaient se faire dans la cité elle-même.
Voilà. Est-ce que ça posait un problème de conscience aux copistes de faire des fautes? Je pense à un petit diable
oui.
qu'ils ont inventé, on ne sait pas très bien à quelle époque.
Alors on pense que c'est vers le XIIIe siècle que ce personnage apparaît, donc un diable ou un diablotin très particulier du nom de Titivilus. Alors, il s'occupait principalement de tous les copistes qui copiaient des textes sacrés, des textes saints. Il était considéré que chaque faute qui était commise par un de ces copistes était assimilée ou assimilable à un péché. Et donc, ce diablotin comptabilisait le tout pour le jugement dernier. Alors, au niveau des textes, on va dire, en langue vernaculaire ou autre, il n'y avait pas de souci.
Est-ce qu'il y avait une manière de se rattraper ?
Je ne sais pas.
Comme le bouc émissaire qui permettait de charger tous les péchés sur un animal, de le chasser dans le désert. Est-ce qu'on pouvait chasser ce diablotin avec son sac rempli?
Là, je ne sais pas comment on pouvait faire pour se débarrasser de tous ces péchés.
Alors avec le passage oublié, la petite main ou l'index qui va replacer le passage dans le corps du texte, on est un peu dans le sujet aussi des drôleries, des marges que l'on trouve
oui.
autour des textes.
Oui. Alors la marge est un élément aussi très important, puisque la marge permet aussi de se défouler, on va dire, puisqu'on a des scènes extrêmement osées, vulgaires, puisqu'on peut trouver, par exemple, la Vierge qui donne le sein à un singe, tout de même. Alors on pensait, puisque les raisonnements étaient très différents des nôtres, qu'on pouvait faire ce qu'on voulait, se moquer de ce qu'on voulait, mais comme le texte était tellement puissant que c'était la vérité absolue, rien ne pouvait l'entacher. Alors, au niveau des drôleries et des marges, bon, il y avait des scènes qui étaient extrêmement cocasses, et on peut imaginer le client découvrant pour la première fois son livre à lui, puisqu'il avait commandé, et bien, son sourire bien marqué, ou peut-être quelques éclats de rire en découvrant ses scénettes. Alors, la marge, qui était une expression, on va dire, un lieu d'expression à ses livres, nous a laissé un terme, puisque c'est le côté extrême, et bien, ne parle-t-on pas de nos jours de marginal, en marge de? Bon, ça nous est resté. Alors, les drôleries, eh bien, c'était particulièrement des espèces d'animaux, on va dire, ou d'êtres qui étaient très souvent hybrides, avec des scènes plus ou moins cocasses. Voilà.
On peut penser aux métamorphoses aussi d'Ovide, parce qu'on se sent un peu les vices de l'homme qui sont stigmatisés à travers ces animaux hybrides. Tout ce qui est hybride
oui.
au Moyen-Âge, de toute façon, est louche.
Oui, pas très bon. Oui, c'était le côté négatif. Alors, c'est vrai qu'on va régler aussi quelques comptes. N'a-t-on pas des prélats dont le visage est une tête de cochon ou de renard ou des habillements très curieux? Oui, je pense que...
Là, ça serait difficile de nos jours de retrouver la personne à laquelle on faisait peut-être
ouais.
allusion. Reprenons le thème de caractère hybride, les sirènes,
oui.
ces belles femmes à queue de poisson.
Oui, alors la sirène est un cas un peu particulier. Donc c'est certainement un être fantastique qui va évoluer, qui va se métamorphoser avec le temps. Lorsqu'on parle des sirènes avec Ulysse... Les voix, nous dit-on, viennent du Nil. Apparemment, ce sont des êtres qui sont terrestres. Ils ne sont pas dans la mer. Au Moyen-Âge, on voit un nombre de sirènes qui sont ailées. Ce sont donc des êtres qui peuvent voler. Et par la suite, eh bien, ça va être cet élément hybride, donc mi-femme, mi-poisson.
Donc, on les trouve surtout sur les chapiteaux des églises romanes.
Oui. Mais dans certains manuscrits, on voit donc ces fameuses sirènes sous forme eh bien, d'êtres ailés.
Ouais. Mais en général, en bas de page, justement dans les marges.
Où... Ah oui, parce qu'on ne pouvait pas les mettre n'importe où non plus. Oui.
Alors, nous avons vu l'importance du bestiaire qui se retrouve dans les manuscrits, permettant d'illustrer le propos.
Aussi,
parce que l'animal peut être un commentaire de texte.
Illustrer des valeurs, même par rapport au comportement de l'homme, et des choses qui devaient se faire et d'autres qui ne devaient pas se faire. Par exemple, toujours dans les animaux particuliers, lorsque le lion est représenté, il regarde toujours de face, ce qui n'est pas le cas du léopard. Le léopard est toujours de profil. Donc, s'il n'est pas de face, c'est que l'animal est faux. Il n'est pas franc.
Donc, la position des têtes est également importante. Oui. On peut le constater également dans les vitraux de la cathédrale de Chartres, oui, où il y a trois positions de tête, deux faces.
Oui.
La position trois quarts, où la tête peut être tournée, mais on montre toujours les deux yeux. Oui. Et la position de profil.
Voilà.
Observez bien, chers auditeurs, les vitraux et les bourreaux en général, ils ont toujours la tête de profil.
Oui, oui.
Comment est-ce qu'on écrivait ? Il fallait bien régler la page avant de poser sa plume.
Alors déjà, il y avait en tout premier lieu eh bien, la définition du format du livre qu'on allait faire. Ce qui faisait qu'on définissait un format de parchemin. Alors, le parchemin pouvait déjà être coupé sous forme de feuillet, puisque nous avions des parcheminiers qui vendaient le parchemin soit la peau entière, soit déjà dans des formats prédéfinis, donc des cahiers. Ça, c'était les deux formes possibles pour acheter du parchemin. C'était une activité qui était très très importante et des fois insoupçonnée par rapport à nos jours.
Le parcheminier.
Alors, le parcheminier et les quantités de parchemin qu'on pouvait acheter. À la Sainte-Chapelle à Paris, par exemple, au XIIIe, dans les pièces comptables, on avait retrouvé qu'en une année, une seule année, ils avaient tout de même acheté 900 douzaines de pots. C'est énorme. Oui, c'est réellement énorme. Donc là, eh bien, on a des sommes qui sont très importantes investies dans le matériel.
Comme disait Régine Pernoud, on mangeait sans doute beaucoup de viande au Moyen-Âge, ce qui permettait d'utiliser ensuite les pots pour les parchemins.
Alors, est-ce que tout le monde mangeait de la viande ? Pas forcément, oui.
Je crains que nous ne soyons déjà arrivés à la fin de notre émission, qui était très intéressante, qui nous a permis de découvrir que les dessins, les enluminures ont bien un sens bien à eux, ou bien à elles, si ce sont des images. Donc nous remercions très chaleureusement Eric Montigny qui est venu nous parler de sa spécialité qui est la calligraphie et l'enluminure et qui l'enseigne à Chartres. Si vous voulez réécouter cette émission, chers auditeurs, allez sur le site de Radio Grand-Ciel, radiocrandciel.fr. Je vous dis au revoir et un grand merci à Eric de Montigny.
Merci à vous, au revoir.
Écoutez Radio Grand Ciel sur 106.8 à Chartres.